La diffusion de nos programmes va maintenant se poursuivre en français.
Dobrý den, bonjour à toutes et à tous, Alexis Rosenzweig au micro. J'espère que vous passez un excellent week-end à l'écoute de Radio Prague. Le programme sera très culturel aujourd'hui avec d'abord de la culture consacrée au théâtre libéré. Ensuite, ce sera l'heure de votre courrier, ce sera lu entre autres par Guillaume Narguet. Et puis, on se quittera avec la littérature hebdomadaire, la dose de littérature hebdomadaire que vous fournit chaque semaine Václav Richter et qui sera aujourd'hui consacrée à Casanova. On commence tout de suite avec la culture. Vous le savez, il y a en ce moment le concours de Radio Prague. Et pour vous aider à répondre à ce concours, parce que c'est assez difficile, le concours, vous le retrouvez dans notre émission de demain dimanche, l'émission musicale. Pour vous aider à répondre à la question du concours, voici la rediffusion d'une émission consacrée au Osvobozené divadlo, au théâtre libéré, une émission proposée par Anna Kubišta.
Bonjour à toutes et à tous. V plus W, ce sont sans doute les initiales les plus connues des Tchèques pour Jan Verich et Jiří Voskovec, les deux comédiens et comiques les plus appréciés et les plus renommés dans l'entre-deux-guerres. Daniel Montmartre est spécialiste du théâtre tchèque et notamment du théâtre libéré, Osvobozené divadlo, le théâtre d'avant-garde auquel leur destin est irrémédiablement associé. Après des études de russe et de tchèque, Daniel Montmartre s'est intéressé à ce théâtre dont sous le communisme, on ne parlait qu'à voix basse. Elle a eu la chance de rencontrer Jan Verich et de parler avec Jiří Voskovec avant leur disparition au tout début des années 80. Pour son travail d'analyse et de diffusion autour du théâtre tchèque, elle a reçu récemment du ministère de la Culture une médaille honorifique. Nous avons eu la chance de pouvoir lui parler lors de son court passage à Prague et de lui demander comment elle avait découvert ce fameux théâtre libéré.
Quand je suis venue ici en République, République démocratique tchécoslovaque, n'est-ce pas, à Prague, en 1966, je suis venue chez un cousin, un vieux cousin du peintre figuratif Miloš Jiránek. Et c'était dans un petit appartement de la Malastrana. Il m'a dit, bon, très bien, tu apprends le russe, très bien. Mais tu sais, parler tchèque, c'est un luxe. Mluvit český je to luxus. Parce que seuls 15 millions de personnes sur notre terre parlent le tchèque. Et je me suis souvenu de ça. Il avait un cahier, un journal intime. Et de son journal intime, il nous a lu à sa cousine et à moi. Donc il nous a lu les pages sur le théâtre libéré de Prague. Et j'ai toujours voulu en savoir plus, alors je me suis dit que quand je terminerai mes études de tchèque, je commencerai un doctorat sur le théâtre libéré de Prague.
Alors pour les auditeurs qui ne sauraient pas ce qu'est ce théâtre libéré, est-ce que vous pourriez un petit peu revenir de manière succincte, je ne sais pas si c'est possible, sur ce qu'était le théâtre libéré, qui est évidemment très associé donc à ces deux personnalités du théâtre tchèque, Verich et Voskovec. Quand a-t-il été créé et pourquoi ?
Alors, ce théâtre libéré, c'était déjà un théâtre d'avant-garde. Il faut dire que l'avant-garde tchèque de l'époque voulait casser l'axe culturel Berlin-Prague-Vienne au profit de celui Paris-Prague-Moscou. Ça, c'est essentiel. Il y a eu des rapprochements de cette avant-garde tchèque entre Paris, notamment les surréalistes parisiens.
Les Dada.
Surtout les surréalistes bretons, Soupeau, tous ces gens-là. Vraiment, il y a eu des essais qui ont été essentiels concernant le théâtre tchèque, les nouveautés du théâtre tchèque, vraiment la biomécanique de Meyerhold, elle est enseignée, tout ça, toutes ces choses-là. On voulait la modernité. On voulait, comme disait Taigue, un véritable poème sur scène qui fasse appel aux cinq sens.
Une sorte de théâtre très complet, en fait.
Voilà, finalement. Voilà. Une sorte de Gesamtkunstwerk, ce à quoi ils sont parvenus de plus tard. Il y a trois metteurs en scène qui vont se détacher de cette avant-garde, à savoir Hunzel, Freyka et Bourriane. Et c'est surtout Freyka qui, le premier, a décidé de l'appellation de théâtre libéré.
Et pourquoi libéré, justement?
Libéré de toutes les conventions.
Libertaire, finalement.
Oui, assez à la... Oui, parce que Freyka l'était, mais il a une autre destinée. De tous ses essais, Voskovets et Wehrich faisaient partie. Ils ont créé, en 1925, un sketch, parce qu'ils étaient amis de longue date. Et Voskovets a convié Wehrich à jouer à l'Institut français de Prague, devant le buste de Molière, devant le professeur Eisenman, qui était un grand slaviste et très ami fervent de la cause tchécoslovaque.
Et qui était le directeur de l'Institut français à l'époque.
Voilà, exactement. Et ça s'appelait « Dialogue impropre pour une tombe ». Ils ont créé un style de la reine. Ils ont installé, ils sont mis au milieu, ils ont joué au milieu, ils ont mis l'assistance autour, comme dans un cirque, et tout le monde était écroulé de rire. Ils se sont dit, on va perfectionner ça.
Sur quoi reposait justement ce duo Wehrich-Voskovets, puisque les deux avaient des caractères très différents, des physiques très différents aussi?
Ils avaient des physiques très différents, ils avaient des caractères très différents, mais ils se complétaient. Dans l'un de ces entretiens, Wehrich m'a dit, c'est comme si nous jouions sur la même corde d'un violon. Je trouve que c'est très poétique et ça signifie beaucoup.
Pour revenir un petit peu au Osvobozené Divadlo, donc le théâtre libéré, une des caractéristiques, vous dites en effet, c'est un théâtre d'avant-garde, une des caractéristiques qui est très liée aussi finalement à cette ère du temps des années de l'entre-deux-guerres, c'est que c'est un théâtre aussi très politique, d'une certaine façon.
En tout cas,
où la politique déjà rentre dedans, mais en sort aussi d'une certaine façon.
Elle n'est pas rentrée tout de suite, attention, parce que Voskovets et Wehrich, au départ, ont écrit des revues. Ils jouaient, il faut dire qu'ils jouaient, ils écrivaient leurs pièces, ils écrivaient leurs chansons, et puis c'était surtout des revues musicales où il y avait six filles qui dansaient, les Yenshi Girls. Alors tout ça, c'est venu progressivement, hein, mais c'était... vraiment de belles revues musicales avec des scénographies luxuriantes et des costumes exubérants.
Pour revenir donc quand même sur cet aspect politique, voilà, puisque il y a quand même beaucoup de pièces qui étaient des satires aussi politiques.
Alors au départ, Voskovets et Wehrich écrivaient des revues exotiques ou légendaires, et puis c'est la situation politique du début des années 30 qui les a amenés à se diriger vers la satire engagée. Au début, Voskovets ne voulait pas. Et puis, des critiques communistes telles que Fouchik les incita à se réveiller. Martelaire, réveillez-vous. Bientôt, il va être trop tard, etc. Et puis, c'est Wehrich qui a décidé d'accéder à cette satire engagée quand il y a eu la révolte des ouvriers de Dolny Lipova. Alors donc ils se sont dit vraiment il y a eu des ouvriers tués et ils se sont dit on va
agir. Ils se sont aussi également exprimés sur l'actualité internationale puisque je crois savoir qu'ils ont fait des revues sur Hitler.
Alors ils ont osé dans L'âne et son ombre en 1933 incarner Hitler dans un âne crevé. Ils avaient un véritable âne sur scène. Wehrich l'appelait Ios, il lui donnait une carotte pour qu'il arrive sur scène et Wehrich, le plus costaud, montait sur cet âne et cet âne il a fini dans un zoo et au début ils ont eu du mal à l'adapter.
Quelle réaction cette revue a suscité?
Alors, ça a suscité une réaction internationale, notamment une réaction de la part des Allemands, hein, de la part d'Hitler lui-même, qui a demandé à ce que la pièce soit retirée du répertoire. Et là, Edouard Benesch, qui était le ministre des Affaires étrangères de la République tchécoslovaque avant d'être second président, est allé en personne voir la scène. La pièce, et il a dit non, écoutez, nous ne pouvons pas la retirer du répertoire. Je ne vois rien qui puisse faire de l'ombre à Monsieur Hitler. En fait, bon, tout le monde avait compris. Et c'est allé crescendo jusqu'aux accords de Munich. Et à la suite des accords de Munich, bien sûr, Hitler a fait ressortir une loi de Metternich pour fermer le théâtre. Il ne restait plus qu'à Voskovets et Wehrich de partir et à leur famille. Sinon, ils auraient eu
des graves problèmes. Ouais. Alors justement, puisque vous arrivez à 1938, donc évidemment pendant la guerre, le théâtre fonctionne pas et Voskovets semble d'ailleurs fera partie de la résistance, enfin en France, je sais plus exactement.
Leurs idoles, ce sont les frères Fratellini au cirque Medrano. Alors, Voskovets fait connaissance avec les frères Fratellini lors de son premier séjour en France lorsqu'il est élève du lycée Carnot de Dijon, parce que l'un des amis de la famille Voskovets veille sur le jeune Georges, Georges, et... c'est Shima, le peintre Shima.
Joseph Shima,
oui. Oui, Joseph Shima, qui veille sur lui et qui l'emmène à Paris voir les frères Fratellini au cirque Medrano. Alors avant de regagner, ils partent aux États-Unis pendant la guerre. Et pendant la guerre, ils s'envoient des émissions pour destinées aux Tchécoslovaques restés dans leur pays. Ils sont quand même rentrés à Prague, Wehrich en premier.
En 1945,
ils sont rentrés à Prague. Et puis,
Est-ce qu'il y a une possibilité justement de reprendre le théâtre à ce moment-là?
Alors oui, ils ont voulu reprendre le théâtre, le reformer. Ils ont joué L'homme qui vient pour dîner 250 fois dans le théâtre qui s'appelait le théâtre de Voskovets et Wehrich. Mais alors, comme l'a dit Voskovets lors de l'un de nos entretiens à New York, il savait que la situation était complètement changée, qu'il n'allait plus pouvoir s'exprimer, donc il a choisi l'exil. D'abord, il est allé à l'UNESCO.
C'est vrai que finalement l'histoire va séparer ces deux inséparables, hein, puisque Wehrich, lui, par contre, restera à Prague.
Oui, il restera à Prague. Il aura une période assez creuse. On lui demandera d'aller se produire sur scène, d'aller chanter avec un orchestre, etc. Et puis il reformera un autre duo avec Miroslav Hornicek. Donc ce sera le duo W+H.
Ne toliko, že je tma, ale nevidím. Vím, že je tu všude tma.
Merci à Anna Kubišta pour cet entretien consacré au théâtre libéré, au Svobozené divadlo. Rappelez-vous ce que je vous disais en début d'émission, cette rediffusion peut vous aider à répondre au nouveau concours de Radio Prague qui s'arrête très bientôt et auquel vous pourrez participer en écoutant l'émission de dimanche, l'émission musicale de Radio Prague. Et tout de suite, c'est la rubrique, une des rubriques en tout cas que vous préférez, celle consacrée à votre courrier, et c'est avec Guillaume Narguet.
Courrier des auditeurs, Guillaume Narguet.
Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue à l'écoute de l'une de vos rubriques préférées. Lors de notre dernier rendez-vous avec vous, auditeurs et lecteurs, il y a 2 semaines de cela, nous avions été contraints de constater le maigre courrier que nous recevions. Nous le regrettons bien entendu, même si nous comprenons bien que pour un grand nombre de radioamateurs, l'écoute sur Internet ne représente plus le même intérêt. C'est ce que nous a expliqué récemment Christian Canoën, qui nous a fait le plaisir de nous rendre visite lors de son récent passage à Prague à l'occasion de la tenue du marathon. Un événement, le marathon, que notre auditeur lillois, qui avait l'habitude de nous envoyer régulièrement ses rapports d'écoute, ne rate jamais depuis plusieurs années, comme il ne manque jamais de venir nous saluer. Cette année, cela a ainsi permis à Christian d'assister à l'enregistrement en studio de nos émissions, notamment de la rubrique littéraire de Václav Richter. Néanmoins, notre appel à nous écrire n'est pas tombé dans des oreilles de sourds, puisque vous avez été un certain nombre à réagir. Nous vous en remercions, et c'est le cas notamment et entre autres de Hervé Briand, un supporter des Girondins de Bordeaux, qui nous a envoyé depuis Talence le message suivant. Bonjour chers amis de la rédaction française de Radio Prague. Peu d'écoute de vos programmes actuellement, mais je lis quotidiennement votre actualité grâce à votre site internet et à la newsletter que je reçois. Je vous remercie pour votre réponse concernant le troc-plante. J'ai une autre question concernant le jardinage. Les jardins partagés, similaires aux jardins ouvriers qui ont déjà existé, commence à renaître un peu partout dans les grandes villes en France. Ce phénomène se retrouve-t-il aussi en République tchèque? Une autre question qui concerne cette fois le Slavia de Prague, dont nous possédons le fanion. Ce grand club est menacé de disparition du fait de problèmes financiers. Qu'en est-il exactement et la menace est-elle sérieuse? J'espère que ces deux questions pourront alimenter la rubrique du courrier des auditeurs qui faiblit fortement ces derniers temps. Merci encore pour votre travail journalistique. Un dernier point concernant le concours de Radio Prague de cette année, il n'est pas facile. Bonne semaine et très sincères amitiés tchécophiles. Voilà donc pour le message d'Hervé Briand. Tout d'abord, concernant notre concours, vous avez été quelques-uns en effet à nous faire remarquer qu'il était plutôt compliqué cette année. Pour vous aider, nous avons donc décidé de rediffuser dans la rubrique culturelle de ce samedi une émission consacrée à Jan Werich et Erzsi Voskovets, les deux principaux protagonistes du théâtre dont nous demandons de trouver le nom. Vous devriez d'ailleurs désormais trouver le nom de ce théâtre sans grande difficulté et vous devriez également trouver suffisamment d'éléments pour pouvoir répondre et participer à ce concours. Concernant les questions posées par Hervé pour ce qui est des jardins partagés, aussi appelés communautaires dans certaines régions et qui sont en fait des jardins collectifs urbains, le phénomène commence seulement à apparaître dans quelques rares nouveaux projets, mais la tendance en République tchèque et plus encore à Prague et dans ses environs est plutôt d'être propriétaire de son propre jardin ou de son petit bout de terrain sans trop chercher à vivre en commun avec ses voisins et surtout en ne voulant pas être dérangé par ceci. Disons donc plutôt que le phénomène n'est pas encore véritablement arrivé en République tchèque, seuls certains architectes essentiellement évoquant parfois la chose ici ou là, mais puisque le phénomène se développe en France depuis une dizaine d'années, après être apparu en Amérique du Nord, on peut supposer qu'il aura ses partisans également en République tchèque à l'avenir. Pour ce qui est de la deuxième question, la réponse est oui. Le Slavia de Prague, un des plus prestigieux et plus anciens clubs tchèques de football, est bien menacé de descente en troisième division. La Fédération tchèque de football a en effet décidé de ne pas attribuer de licence professionnelle au Slavia pour la saison prochaine, en raison de son important déficit financier. Les choses ont toutefois quelque peu évolué ces derniers jours. Les dirigeants du club ont d'abord fait appel de la décision rendue par la fédération. Il semble en effet qu'un nouvel investisseur ait finalement été trouvé après de longs mois de négociations. Ce nouvel investisseur a donc d'abord versé une partie de ce qui revenait aux joueurs et aux employés du club, qui n'étaient plus payés depuis le début de l'année. Selon le média tchèque, le Slavia devait environ 15 millions de couronnes, soit un peu plus de 610 000 euros en salaire à ses joueurs. Il ne s'agit pas là d'une somme mirobolante si on la compare à la masse salariale de la plupart des clubs européens et français, mais cela n'enlève rien au fait qu'il n'y avait plus un sou dans les caisses du club pragois. Par ailleurs, la société prête à investir dans le Slavia devrait également s'engager à rembourser les quelques 4,5 millions d'euros dus à la société britannique Enic, ancien actionnaire majoritaire du club. Et si toutes ces dettes devaient être effectivement remboursées et si un nouveau propriétaire arrive bien à la tête du club, le Slavia de Prague devrait cependant être sauvé et pouvoir continuer en première division la saison prochaine.
C'était donc la rubrique consacrée à votre courrier. Vous êtes toujours à l'écoute du programme en français de Radio Prague. J'espère que vous passez un excellent week-end et qu'il fait aussi beau que dans la capitale tchèque, même si des orages viennent bouleverser cette météo estivale de temps en temps. Et on passe tout de suite à la littérature, comme toutes les semaines. C'est Václav Richter qui vous propose cette nouvelle dose de littérature. Cette semaine, son émission sera consacrée aux aventures de Casanova en Bohème. Écoutez, c'est passionnant.
Rencontre littéraire.
Le cynisme est si outré dans tous les détails de mes vives aventures jusqu'à mon âge de 50 ans que ma vie sera un ouvrage dont on défendra la lecture dans tout pays où on aime les bonnes mœurs.
C'est ce qu'a écrit Giacomo Casanova à un de ses amis, et il a commis une erreur monumentale, car ses mémoires licencieuses lui ont apporté une gloire posthume qui ne se démentit pas et sont aujourd'hui connues des lecteurs du monde entier. On reste intrigué, on se laisse toujours séduire par les aventures de cet homme qui a tenté de hisser le péché au niveau des beaux-arts et qui a osé dire.
Je dis tout, je ne m'épargne pas, et cependant je ne peux pas, en homme d'honneur, donner à mes mémoires le titre de confession, car je ne me repens de rien, et sans le repentir, vous savez qu'on ne peut pas être absous.
La vie du grand aventurier qu'était Giacomo Casanova est une suite interminable de voyages à travers toute l'Europe et de séjours dans les principales villes européennes marquées par ses rapports délicats et souvent orageux avec les puissants de son temps. Ses démêlés avec les créanciers, ses séjours en prison, ses fuites et ses duels ont été rendus célèbres non seulement par ses mémoires, mais aussi grâce à de nombreux écrivains, historiens et cinéastes inspirés par la vie du grand séducteur. Car c'est surtout Casanova séducteur, Casanova héros d'innombrables aventures amoureuses, conquérant infatigable de cœur féminin qui est entré dans la légende. Bien sûr, on ne peut pas se fier tout à fait à ses mémoires scandaleuses intitulées « L'histoire de ma vie ». On ne peut pas croire sans réserve tout ce que le narrateur passionné et l'affabulateur plein de fantaisie racontent dans ses souvenirs. On se demande d'ailleurs toujours si ses mémoires correspondaient vraiment à la réalité, mais on se rend compte aussi qu'il est quasi impossible d'inventer une matière d'une aussi prodigieuse variété. Bien que les chercheurs aient démontré que parfois Casanova laissait parler son imagination, que sa mémoire était certes prodigieuse, mais pas infaillible, on ne doute plus de l'authenticité de ses souvenirs considérés aujourd'hui aussi comme une source d'informations historiques précieuses. Les imprécisions qu'on trouve dans l'histoire de ma vie ne sont pas tant dues à l'affabulation qu'à ce qu'on appelle l'effet d'embellissement. Il ne faut pas s'étonner, lorsque Casanova nous décrit ses conquêtes féminines, d'apprendre que presque toutes les femmes qui ont eu quelque importance dans sa vie étaient belles et séduisantes. C'est ainsi que notre mémoire embellit souvent la réalité vécue. L'historiographie moderne est cependant impitoyable et permet dans de nombreux cas de confirmer ou de démentir les affirmations d'auteurs célèbres en les confrontant à d'autres documents. Dans le cas de Casanova, de tels documents existent en grand nombre. Casanova, qui entretenait une correspondance abondante, nous a laissé dans ses lettres et dans d'autres écrits de nombreux témoignages qui jettent une lumière plus réaliste sur ce roman passionnant qu'est l'histoire de ma vie. Ces documents sont réunis en grande partie en République tchèque. C'est dans le château de Duchtsov, Dux en allemand, en tant que bibliothécaire du comte Karl Wallenstein Wartenberg, que le grand séducteur a passé la dernière décennie de son pèlerinage terrestre. L'historien Józef Poliszynski rappelle que Casanova était loin d'être content de devoir passer la fin de sa vie à l'écart de la société mondaine dans un milieu barbare.
On oublie cependant que ce n'était pas seulement la Bohême qu'il considérait comme barbare, mais aussi l'Allemagne et probablement tous les lieux de séjour, à l'exception de Paris et de l'Italie, qu'il aimait beaucoup. Par contre, il est certain que la sinécure de Durtov, les devoirs de bibliothécaire n'ayant pas été pris très au sérieux ni par Casanova ni par son employeur, lui a permis un travail littéraire intensif et que sans Durtov, il n'y aurait pas eu de gloire posthume. S'il n'avait pas terminé ses jours d'une façon plus passionnante, aujourd'hui on ne se serait souvenu de lui que comme d'un Cagliostro et d'un Saint-Germain. Les pêcheurs pénitents sont sans aucun attrait littéraire s'ils ne s'occupent pas eux-mêmes de leur immortalité.
Dans cette petite ville de province, Casanova travaille donc à sa gloire posthume avec une énergie et une vitalité prodigieuses, mais aussi avec beaucoup de plaisir. En 1791, il écrit à son ami Opitz.
Je m'occupe à mes mémoires. Cette occupation me tient lieu de délassement. Je me trouve jeune et écolier en les écrivant. Je me donne souvent dans des éclats de rire, ce qui me fait passer pour fou, car les idiots ne croient pas que l'on puisse rire en étant seul. J'écris ma vie pour me faire rire, et j'y réussis. J'écris 13 heures par jour, qui me paraissent comme 13 minutes.
La situation financière de Casanova à Durtsov n'est pas brillante, et il gagne moins qu'il ne le dit à ses amis. Il aggrave encore sa situation de temps en temps, avec des tentatives de publier ses écrits qui le ruinent. Malgré son mécontentement, qui se manifeste par plusieurs tentatives de fuite, il revient toujours vers son mécène, dont la bourse lui permet de vivre sans grand souci, et de temps en temps de payer ses dettes. Il sait que le refuge de Durtsov lui restera ouvert jusqu'à la fin de ses jours. C'est à Durtsov qu'il meurt en 1798, et c'est là qu'il est enterré. Des milliers et des milliers de pages de sa main qu'il a laissées dans la bibliothèque de Durtsov témoignent de la passion et de la persévérance avec lesquelles il a travaillé et corrigent aussi l'image qu'on se fait en général de cet homme considéré comme un aventurier irresponsable. Les nombreuses lettres qu'il a rédigées à Durtsov ont été adressées surtout à des femmes. Parmi les œuvres qu'il a écrites dans la bibliothèque du comte Wallenstein et qu'il a publiées à Prague figurent par exemple une polémique contre Cagliostro et les aventuriers en général intitulée « Le soliloque d'un penseur ». C'est à Prague que Casanova publie également le livre sur un des chapitres les plus difficiles de sa vie, l'histoire de ma fuite des prisons de la République de Venise qu'on appelle les plombs. En 1788, il fait paraître le roman utopique « Icosaméron » et c'est chez un éditeur de Dresde que sortent 3 brochures témoignant du vif intérêt que Casanova porte aux mathématiques. Il s'intéresse sérieusement aux mathématiques, à la linguistique, à l'histoire, à la politique et à d'autres disciplines, leur consacre plusieurs ouvrages. Mais s'il continue à susciter encore aujourd'hui l'intérêt des lecteurs, des écrivains et des cinéastes, il le doit à ses mémoires rédigées en français et léguées à sa nièce. Les héritiers de la nièce vendront le manuscrit à l'éditeur Brockhaus de Leipzig, qui le publiera sous le titre de « L'histoire de ma vie » en 1820, soit 22 ans après la mort de l'auteur. Sa vie posthume, plus brillante et plus glorieuse encore que sa vie réelle, peut commencer. En rédigeant ses mémoires, Casanova cherche à échapper à la tristesse et à égayer la dernière étape de sa vie. Il croit en Dieu, mais il est loin de condamner les extravagances de sa jeunesse et de son âge mûr. Le vieillard de Durtsov n'a pas le mauvais goût de prêcher la morale. Il plaide plutôt pour la tolérance.
Je n'ai pas écrit ces mémoires pour la jeunesse qui, pour se garantir des chutes, a besoin de la passer dans l'ignorance, mais bien pour ceux qui, à force d'avoir demeuré dans le feu, sont devenus salamandres, les vraies vertus n'étant qu'habitude, j'ose dire que les vrais vertueux sont ceux qui les exercent sans se donner la moindre peine. Ces gens-là n'ont point l'idée de l'intolérance, et c'est pour eux que j'écris.
En musique que se termine donc cette rubrique littéraire présentée par Václav Richter. Merci à lui. Merci à vous de votre attention et de votre fidélité. C'est la fin du programme en français de Radio Prague. On se retrouve demain, même heure, pour l'émission musicale.
Radio.